En montant dans le désert, Buddy gazouilla des trucs sur un harmonica en si mineur pendant que son passager se soumettait à certaines techniques d'auto-hypnose afin de se détendre. Il lui fallait absolument retrouver tout ce qu'il savait sur l'histoire d'Donald Kenyon. L'affaire, il s'en souvenait, avait été la dernière d'une longue série de cafouillages particulièrement embarrassants pour le bureau. Employé à la Washington Guaranteed, une banque de dépôt avec des succursales dans les comtés de Los Angeles, Orange et San Diego, Kenyon était un golden boy, à cheveux blonds et langue de serpent, qui avait tellement cherché et trouvé les faveurs d'investisseurs fortement argentés en leur refilant des tuyaux illicites sur certaines valeurs cotées en bourse, qu'à l'âge de 29 ans à peine, il avait accédé à la présidence du groupe, toutes les revues d'affaires brossant aussitôt son portrait dans leurs colonnes. Investisseur, employé et média, l'homme inspirait confiance à tout le monde. Tellement même qu'en 3 ans de présidence, un prêt frauduleux après l'autre, et tous à des banques bidons, il avait réussi à soustraire quelque 35 millions de dollars à sa banque sans que personne hausse seulement le sourcil. Ce n'était qu'au moment où, complètement vidé de ses fonds, la Washington Guaranteed s'était effondrée que tout le monde, y compris les auditeurs fédéraux et les contrôleurs, avait enfin mesuré l'étendue du désastre. Mais l'oiseau avait filé. L'histoire avait fait la une des journaux pendant des mois et des mois, voire des années. On avait glosé à perte de vue sur le sort de tous les retraités qui s'étaient retrouvés sur la paille, sur l'effet de cascade que le crash avait eu dans l'économie du pays. Et pendant ce temps-là, Kenyon, on le disait, avait été vu à Paris, mais aussi à Zurich, Tahiti et autres lieux. Après 5 ans de cavale, il avait enfin été retrouvé par un agent du bureau, section des fugitifs, au Costa Rica, où il vivait dans une splendide villa avec 2 piscines, 2 cours de tennis et un haras avec entraîneur logé à domicile. Alors âgé de 36 ans, Kenyon avait été extradé à Los Angeles, où un tribunal fédéral attendait de le juger. Pendant qu'il patientait en prison, un détachement du bureau spécialisé dans les affaires de forfaiture et de détournement de fonds s'était mis à éplucher ses comptes, et après 6 mois de travail n'avait retrouvé que 2 millions de dollars, et encore, sur les 35 qui avaient disparu. Et c'était là que tout s'était corsé. La défense de Kenyon affirmant que s'il n'avait pas le reste de l'argent, c'était tout simplement parce qu'il ne l'avait pas pris, mais avait bel et bien été obligé de le donner sous menace de mort, la sienne et celle de tous les membres de sa famille. Avec l'aide de ses avocats, Kenyon avait ainsi déclaré qu'on l'avait contraint, en le faisant chanter de cette manière, de fonder des corporations sur lesquelles il virait les fonds de sa banque au bénéfice du maître chanteur. Et même la perspective de passer des années dans une prison fédérale ne l'avait pas convaincu de dénoncer le gredin qui avait raflé tout le fric. Les enquêteurs et les procureurs fédéraux avaient décidé de ne pas le croire. En arguant de son style de vie, aussi bien à l'époque où il dirigeait la Washington Guaranteed qu'à celle où il était en fuite, et en s'appuyant sur le fait que, même si ce n'était pas grand-chose, il détenait manifestement une partie de l'argent volé quand il vivait au Costa Rica, ils avaient résolu de le poursuivre, lui et lui seul, devant une cour fédérale. À l'issue d'un procès qui avait duré 4 mois, et jour après jour avait vu défiler tous les gens qui avaient perdu leurs économies dans l'effondrement de la banque, Kenyon avait été reconnu coupable de fraude à grande échelle. Le juge de district Dorothy Windsor le condamnant à une peine de 48 ans de prison. Ce qui s'ensuivit devait se solder par un des plus grands coups jamais portés à la réputation du FBI. Tout de suite après avoir prononcé la sentence, le juge Windsor avait en effet accédé à une requête par laquelle Kenyon lui demandait de pouvoir rentrer chez lui et se préparer à la prison pendant que ses avocats travaillaient à un pourvoi en appel. Malgré les objections répétées du procureur, elle lui avait accordé 60 jours pour mettre ses affaires en ordre, après quoi, qu'il y ait appel ou pas, il devait se présenter à la prison. Elle lui avait aussi enjoint de porter un bracelet électronique autour de la cheville, afin d'être sûre et certaine qu'il ne tente pas d'échapper une deuxième fois à la justice. Prescrire de telles dispositions, après l'énoncé de la sentence, n'a rien d'inhabituel, mais il n'en va pas du tout de même lorsque le condamné a déjà montré son désir de fuir les autorités et sa capacité à quitter le pays. Kenyon avait-il réussi d'une manière ou d'une autre à suborner un juge fédéral pour s'enfuir à nouveau? La question ne devait jamais être résolue. Le mardi qui suivait Thanksgiving, alors qu'il en était à son 22e jour de liberté surveillée, quelqu'un était entré dans la propriété qu'il louait à Beverly Hills. Kenyon y était seul, sa femme étant allée conduire leurs 2 enfants à l'école. L'intrus avait trouvé Kenyon dans la cuisine, avait braqué une arme sur lui et l'avait forcé à rejoindre l'entrée en marbre de la maison. Arrivé là, il l'avait abattu à l'instant même où l'épouse de Kenyon arrêtait sa voiture dans l'allée de devant. Puis l'inconnu s'était enfui par une porte de derrière et une fois dans la rue avait disparu dans les grands domaines de Maple Drive. n'aurait été l'enquête et la traque du tueur, l'histoire aurait pu en rester là, à tout le moins s'enliser dans l'ennui qu'éprouve le beau monde en constatant que la piste est froide. Mais le FBI avait mis Kenyon sous surveillance illégale, avec engin d'écoute planqué dans sa maison et ses voitures, jusque dans le cabinet de ses avocats. De fait même, au moment précis où il se faisait assassiner, une camionnette banalisée avec 4 agents à l'intérieur se trouvait à 2 rues de là, et toute la séquence du meurtre avait été enregistrée. Bien conscients d'avoir enfreint la loi, les 4 agents s'étaient néanmoins rués vers la maison et avaient poursuivi l'inconnu, mais celui-ci était parvenu à les semer tandis qu'on emmenait Kenyon de toute urgence à l'hôpital de Cedar Sinai, où il avait été déclaré mort à son arrivée. Les millions de dollars qui manquaient à l'appel et que, d'après le jugement, Kenyon avait volé à la Washington Guaranteed n'avaient jamais été retrouvés. Mais ce n'était qu'un détail qui avait été promptement oublié lorsque la conduite des agents du FBI avait été révélée au grand jour. Non seulement ils avaient été vilipendés pour avoir mené une opération illégale, mais encore avaient été publiquement dénoncés pour avoir permis qu'un meurtre soit commis sous leur nez et avoir bousillé l'occasion qu'ils avaient de l'empêcher sans même parler d'attraper l'assassin. McCaleb avait suivi l'affaire de loin. Il avait déjà quitté le bureau et à l'époque du meurtre se préparait lui aussi à mourir. Mais il se rappelait avoir lu les articles du Los Angeles Times qui avaient toujours été à la pointe de l'information dans cette histoire. Il n'avait en particulier pas oublié les colonnes où l'on avait annoncé que tous les agents impliqués dans l'affaire avaient été rétrogradés, les politiciens de Washington exigeant qu'on force le bureau à s'expliquer devant le Congrès. Et pour ajouter l'insulte à toutes ces blessures, il se rappelait aussi que la veuve de Kenyon avait poursuivi les 4 agents en justice pour bris de clôture et entrée illégale dans une propriété privée et osé exiger des millions de dollars de dommages et intérêts. Cela dit, la seule question à laquelle il devait maintenant répondre était celle de savoir si l'inconnu qui avait assassiné Kenyon en novembre était aussi celui qui avait tué Cordell et Torres quelques 2 et 3 mois plus tard. Et si c'était bien le cas, quel pouvait être le lien qui unissait le président d'une banque de dépôt en faillite, un ingénieur spécialisé dans la maintenance des aqueducs et une femme qui travaillait dans la salle de rédaction d'un journal? Enfin, il revint à lui et regarda le paysage. Ils avaient depuis longtemps dépassé les Vasquez Rocks, la maison d'Amelia Cordell n'était maintenant plus qu'à quelques minutes de voiture.